Bonsoir à tous. Je vous retrouve en ce beau dimanche ensoleillé avec un invité exceptionnel. Il est réellement ce que représentent les 72 heures de la radio. La libération des ondes, il a 40 ans, qui lui a permis de faire de la radio légalement après avoir fait des années de radio pirate. Des anecdotes incroyables où il fallait grimper aux arbres, jouer au chat et à la souris avec les policiers. À une époque où faire une émission radio avec quelques copains était tout simplement interdit. Il a créé à une époque fort fort lointaine Radio Riette, devenue, il me semble, par la suite, une certaine Radio Alpa, que je représente dans notre entretien, et il s'appelle Bernard Vétillard. Bonjour Bernard Vétillard.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Alors, on a créé, c'est un collectif.
On a créé, évidemment. Mais vous êtes là ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez donc nous raconter votre passé dans le monde des radios pirates et les anecdotes rocambolesques qui vous sont arrivées. Pour commencer, vous avez donc créé cette fameuse Radio Riette au Mans à la fin des années 70. Alors avant de se pencher sur son histoire, vous aviez quel âge à l'époque ?
Dans les 25 ans à peu près, oui.
Alors je le rappelle, donc avant 1980, il y avait un monopole d'État dans le domaine de la radio et de la télé. Racontez-nous d'abord la création de Radio Riette.
Alors en fait, je n'ai pas assisté complètement à la création, mais je suis arrivé juste après. C'est l'initiative de deux universitaires qui, pour briser un peu le monopole de l'État de l'époque, et aussi pour donner la parole à tous, aux citoyens, sur le terrain et local, qu'a été créée cette radio. Alors pourquoi Radio Riette ? Alors à l'époque, on ne faisait pas beaucoup de marketing, hein. C'était automatique.
Au Mans, comme par hasard.
Une radio locale, très locale, c'est les
Riettes. Très, très locale.
Voilà. Et juste pour anecdote, à Tours, il y avait Radio 36 Tours.
Joli jeu de mots. Vous parliez de radio de proximité avant cet entretien. Qu'est-ce que c'est pour vous, la proximité, la radio de proximité ?
Bah, la radio de proximité, c'est le fait d'aller vers les gens, d'aller interviewer des personnalités, des personnes. On allait sur le marché avec notre petit radiocassette pour enregistrer des témoignages, pour valoriser des actions. On était quand même plutôt militant à l'époque, hein, militant associatif, militant déjà écolo aussi à l'époque, hein, enfin en tout cas pour moi et pour d'autres aussi. Et c'était aussi pour briser ce monopole qui était quand même intolérable pour nous, que la radio soit accaparée par certaines grandes radios et que nous on voulait que ce soit les gens du cru, les gens de proximité qui puissent s'exprimer à travers une radio, Radio Riette.
Alors voilà. Venons-en au début, donc pour faire de la radio il faut une antenne, il faut pouvoir émettre. Comment vous l'avez obtenu cet émetteur ?
Alors cet émetteur, eh bien, on l'a acheté en Suisse, hein. C'était une marque italienne je crois. C'était tout petit, hein. Et donc on est allé l'acheter en Suisse là-bas, et puis après il fallait acheter une antenne, donc on a acheté le minimum de choses, les câbles, etc. Et puis après il fallait émettre. Mais le problème c'est que pour émettre, il faut au moins avoir quelques auditeurs, si je puis dire. Et pour que les auditeurs nous écoutent, il fallait qu'ils sachent à quelle heure on allait émettre.
Et alors comment vous avez fait ?
Eh ben en fait, on faisait des affiches, des tracts, et on allait sur les marchés distribuer en disant voilà, on va émettre la semaine prochaine à 15h, 16h, etc. Et on collait des affiches avec la fréquence qui correspondait pour que les gens nous écoutent.
Alors qu'est-ce que vous diffusiez à l'époque ?
Ben, on diffusait beaucoup je me souviens, on allait sur les marchés des Sablons, enfin les différents marchés jacobins, et on interviewait des gens et sur leur vécu, sur leurs préoccupations à la fois sociales, socio-économiques, politiques, etc., et militantes. Et après, on faisait des mixages, enfin des petits mixages, hein, rien à voir avec ce qui se fait maintenant. Et puis, on prévoyait à peu près une heure et quart, sauf qu'on n'a jamais été au bout parce que c'était, vous savez qu'on était radio pirate, entre guillemets, et qu'évidemment, la police nous suivait. Et comme on était obligé de sortir du bois, si je puis dire, pour dire à quel moment on allait émettre, la police était au courant aussi. Donc c'était un peu la course, notamment pour mettre l'antenne. Alors des fois c'était en haut d'un arbre, des fois c'était sur un...
On y arrive, voilà. Vous m'avez raconté plein d'anecdotes là-dessus, incroyable. Vous avez donc fait apparaître des réflexes de survie incroyables. On grimpe en haut d'un arbre, on va tout en haut d'un toit. Donc
tout
là il y a des complices pour aller en haut d'un toit, un arbre un peu moins.
On était quand même plusieurs, on était toute une équipe à faire ça. Et donc on allait avec une... L'antenne était assez grande pour qu'ils puissent émettre. On voulait rayonner au moins sur le Mans et même un peu plus loin, quoi. Donc, il fallait qu'elle soit assez haut. Donc, on allait souvent à l'université, puisque c'est là un des plus hauts points, et aussi du côté de la rue Prémartide. Et là, soit sur une terrasse de maison, soit sur... Mais dès qu'on avait des gens qui étaient aux aguets, hein, dans les rues, pour savoir si la police arrivait, et on déménageait, et on remettait l'antenne un peu plus loin, et on continuait l'émission. Et on disait aux auditeurs, ne quittez pas, dans 5 minutes on recommence.
Vous avez joué au chat et à la souris avec les policiers et un jour, c'est eux qui ont gagné.
Eh bah oui, ils ont gagné, c'est-à-dire que...
Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Comme on collait des affiches, je me souviens pour moi avoir été interpellé près des Sablerons, enfin l'ancienne piscine là. Et donc on collait et la police nous a encerclés et on a été arrêtés. Et après il y a toute une procédure judiciaire qui s'est mise en place avec la PJ d'Angers à l'époque. Et donc, perquisition à domicile, dans mon domicile, pour chercher l'émetteur. Ils cherchaient l'émetteur, en fait. Et puis, on a été convoqués, interviewés, enfin, pas interviewés, non, c'est d'occasion.
Interviewés aussi.
auditionnés. et auditionnés.
Ça aurait pu,
hein. Et là, en fait, on nous a assommés de dénoncer nos camarades, entre guillemets, qui faisaient la radio. Et en nous menaçant, bien sûr, de prison, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, ça, c'est intéressant de savoir, c'est qu'on risquait jusqu'à, je crois que c'était 100 000 francs, donc à peu près 16 000 euros maintenant, et jusqu'à un an de prison. Donc la procédure a été entamée, donc c'était pas simple parce que moi j'étais déjà presque fonctionnaire, donc on m'a menacé, si je dénonçais pas mes petits camarades, d'être rayé de l'éducation nationale puisque j'étais enseignant à l'époque. Bon, on a tous pas craqué.
Et à l'âge de votre jeunesse, qu'est-ce qu'il avait de plus passionnant et d'excitant à faire de la radio dans l'illégalité?
Alors, c'était pas le côté illégal, parce que, non. C'était
un peu, quand même.
Oui, un peu, mais c'était aussi le côté militant, c'est-à-dire on voulait absolument redonner les ondes à tous, et avec un côté militant dans la mesure où on trouvait inadmissible, après, il faut savoir que c'était après les années 68, quand même, moi, j'ai pas vécu 68, mais un peu après, et où on voulait que militer pour que les ondes redeviennent accessibles à tous. Et ce qui est arrivé en 82, mais on verra ça tout à l'heure. En 81, on verra ça tout à l'heure. Et donc, c'était un acte à la fois militant. C'était pas le fait de jouer au chat à la souris. C'était pas, enfin, pour moi, c'était pas la passion. Parce que j'aurais envie de faire autre chose. Mais c'était surtout redonner la parole gens de terrain, surtout. Et c'est pas par hasard qu'on allait au Sablon, parce que c'était déjà des quartiers un peu sensibles à l'époque. Et puis aussi, aller voir des gens qui avaient créé des structures, des associations dans le domaine du social, de l'écologie déjà à l'époque, puisqu'on avait créé déjà à l'époque un groupe Écologie du Mans.
Et bien justement, on y vient, 1981, la libération des ondes, qu'est-ce que ça a changé pour vous, d'un point de vue personnel?
Et ça a changé le fait que je ne suis pas allé en prison.
C'est déjà bien.
C'est très personnel, hein. Mais...
Ça, c'est très personnel.
Non,
oui.
Non. Et puis on était très content aussi que l'arrivée de Mitterrand et de la gauche au pouvoir puisse libérer les ondes, si je puis dire. Même si après, on pourra plus en discuter. Il y a eu d'autres problèmes. Enfin bon.
Lesquels?
C'est-à-dire qu'on donnait pas les ondes à tout le monde. Hein. Il fallait demander une autorisation. Qui avait droit, qui avait pas droit. Fallait montrer patte blanche quand même. Enfin, j'ai suivi un tout petit peu après. Mais non, on était très contents de cette libération. Et puis aussi parce que pour nous, mais là c'est très très personnel, c'est que la procédure judiciaire s'est automatiquement arrêtée. Et donc on a pu faire autre chose. Et après je suis parti dans d'autres militantistes.
Et c'est après ça aussi que Radio Alpa a vu le jour.
Eh bien oui.
Sans vous?
Sans moi, oui. C'est vrai que pendant un an où j'étais en procédure judiciaire, j'ai fait autre chose. Quand Radio Alpa s'est créé... Bien que j'ai participé plusieurs fois à Radio Alpa, j'ai soutenu évidemment Radio Alpa, mais j'ai pas été actif dans la création de Radio Alpa. Mais j'ai suivi le processus, évidemment. Déjà à l'époque, j'étais dans le Fenouil, création du Fenouil, l'Elastica Musique, etc.
On est en 2021, vous étiez en 1981, ça fait 40 ans aujourd'hui avec la libération des ondes. Est-ce qu'elle a évolué, la radio, selon vous, depuis 40 ans? Quel regard vous portez là-dessus?
Oh oui. Je suis encore un auditeur très attaché à la radio. Pas forcément à Radio Alpa, j'écoute de temps en temps, mais je pense à France Inter, je pense à d'autres radios. Je pense que la radio a quelque chose que n'a pas la télé, c'est-à-dire on peut l'écouter n'importe où, dans la voiture, en vacances, etc. Et qu'elle amène aussi un son qui est différent, et je suis très sensible au son. Et je me souviens aussi avoir beaucoup écouté à l'époque, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais le théâtre à la radio. Et c'est passionnant, avec les bruitages, etc. Et je pense que la radio amène un plus. Et même, je dirais que j'ai même valorisé ça à une époque où j'étais responsable d'une ZEP à Allonne. Et j'ai fait venir régulièrement chaque année une radio, peu importe, c'était les Franca, mais qui venait pendant une semaine avec les élèves d'une classe ou d'une école. Mmh. Et c'était les élèves qui créaient leur propre radio et qui diffusaient dans toute la zone d'Allonne des émissions qu'ils avaient eux-mêmes créées. Et à la limite, c'est plus facile et à la fois, c'est plus compliqué parce qu'il y a le son qui est important. à la télé maintenant, c'est vrai que le son, moi je suis désolé, mais des fois c'est inaudible.
Aujourd'hui, on va bientôt finir cet entretien. Qu'est-ce que cette interview, surtout ces nombreux souvenirs, avec votre regard, quel effet ça vous fait de parler de tout ça aujourd'hui ?
D'abord, j'étais surpris qu'on m'appelle, parce que ça fait tellement de temps. Je suis heureux quand même de pouvoir témoigner, parce que je pense que beaucoup de jeunes ou moins jeunes n'ont pas idée de ce qu'était la radio interdite à l'époque. On parle beaucoup de liberté actuellement. C'est vrai qu'il faut savoir qu'à une époque, la radio est une radio d'État, c'est-à-dire avec des censures, etc. Et je pense que là, malheureusement, je suis un peu déçu maintenant de voir ce qu'est devenu la radio, parce que c'est une radio commerciale, beaucoup de radios commerciales, sauf Radio Alpa.
Évidemment.
Merci.
Évidemment.
Mais ceci dit, elle est quand même, j'allais dire, un taux d'écoute qui n'est pas très élevé. Hein. Et heureusement, il y a des grandes radios comme France Inter auxquelles je suis très attaché, parce qu'il y a une qualité des émissions, une qualité de liberté quand même, hein, de ce qui se dit, aussi bien le matin, le soir, etc. Et voilà. Mais c'est dommage que la radio ne prenne pas autant de place dans les jeunes qui ne voient dans la radio que la musique, en fait.
Vous pensez qu'ils ne voient que la musique, les jeunes, aujourd'hui ?
C'est ce que j'entends. Moi, j'ai quatre enfants qui ont maintenant entre 35 et 25 ans.
Mais s'ils sont réellement passionnés par la radio ?
Non, pas du tout.
Voilà.
OK. Et voilà, et quand je leur dis tout à l'heure, on était en frais de famille, je dis, attendez, je vais interviewer la radio Riette. Oh, papa, ça y est, tu ressors tes vieux démons.
Allez, on va bientôt finir cet entretien, il nous reste quelques minutes, je vais vous demander un mot pour qualifier la radio, selon vous. Qu'est-ce que vous avez vécu ?
Pour moi, la radio, c'était la proximité, la liberté, et je dirais créer du lien social. J'ai fait trois mots là.
Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Bernard Vétillard. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je suis sûr que ça a rappelé à beaucoup, beaucoup de souvenirs à certains qui nous écoutent.